Hello, Mortimer. Ah, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Nesta!
Oui, monsieur.
Faites mes bagages.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Arrêt à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure, ah, vous parlez avec Tanguy.
Captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, captivant.
Premier, Michel Vaillant, sur Vaillant numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
La voie appienne, le plus fameux de tous les chemins qui mènent à Rome. Sur cette route marchent les légions victorieuses. Rome est le centre de l'Empire, la maîtresse incontestée du monde. Mais la puissance entraîne la corruption, nul n'est en sûreté. Chacun est à la merci de l'État. Le crime remplace la justice. Les chefs des nations soumises livrent à la servitude leurs sujets sans défense. Puissants ou misérables, tous deviennent les esclaves ou les otages de Rome. Nul ne peut échapper au fouet ou au glaive.
On peut apercevoir Rome du sommet de la colline.
La voilà, notre cité, Rome. 3 ans, c'est long, n'est-ce pas, Fabius?
Oui, Marcus, c'est très long, en effet. Drusilla et les enfants. Ce soir, je dormirai chez moi.
Père de famille jusqu'à la moelle des os. Je ne songe pas à dormir, crois-moi.
Véritable personnage ou actante, la ville de Rome, fondée en 753 avant Jésus-Christ, a toujours inspiré les romanciers ou les cinéastes. Vous venez d'entendre un extrait du film de Mervyn LeRoy, Covadis, d'après le roman d'Erin Sienkiewicz. Mais Rome n'a pas manqué non plus d'être l'héroïne de nombreux albums de bande dessinée. Et c'est pourquoi l'émission de ce soir, réalisée par Christian, lui sera entièrement consacrée. Il faut dire que les Romains n'ont pas seulement créé une langue universelle, le latin, et la notion de citoyenneté, mais aussi une architecture et un art éblouissant qui ont inspiré peintres et artistes en tout genre. Nous ferons la liste des séries et albums de BD qui rendent hommage à la cité éternelle, elle qui a cultivé la lecture, d'abord par de longs volumes de papyrus, les volumens, puis grâce aux tablettes enduites de cire reliées en livres, les codex. Puis nous recevrons Gilles Chaillet, car aucun auteur de bande dessinée n'est plus passionné par Rome. Enfin, nous tâcherons de savoir si les deux plus célèbres péplums de la BD, Alix et Astérix, donnent de la ville de Rome une représentation historiquement exacte. Né au 8e siècle avant Jésus-Christ, du regroupement de plusieurs villages sabins et latins établis sur des collines, 7 selon la tradition, Rome devient une cité bien organisée sous la domination des Étrusques qui la pourvoient de remparts et de monuments. D'abord royaume, Rome est une république à partir de l'an 509 avant Jésus-Christ. Vers -390, les Gaulois s'emparent de la ville, qu'ils brûlent, à l'exception du Capitole, et pourtant nos ancêtres n'avaient pas encore inventé la potion magique. Du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ, les Romains conquièrent l'Italie, puis les guerres puniques permettent à Rome d'écraser sa grande rivale, Carthage. Roi de Numidie depuis l'an 118 avant notre ère, Jugurtha entre en lutte contre l'envahisseur romain. Vaincu par Marius en -107, il meurt dans les prisons romaines 3 ans plus tard. Le destin tragique de Jugurtha a été dessiné par Hermann en 1967 dans le journal Tintin. Au 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains font de la Grèce l'une de leurs provinces, puis réduisent l'Asie mineure, la Judée, la Syrie, l'Espagne et la Gaule.
Et 200 personnes, Florence, Milan, s'il y a le temps, week-end, l'État, en bagnole de fortune, Variette, Mélo, à la radio, week-end, l'État, Paris est sous la pluie, bonheur, soupir. Chanson pour rire, chanson étale. Chanson pour rire. deux. La pluie m'assomme, gris m'empoisonne, week-end à Rome. Pour la douceur de vivre et pour le fun, puisqu'on déjeune, week-end létal. Retrouver le sourire, je préfère te dire, j'ai failli perdre mon sang-froid. J'ai failli perdre mon sang-froid.
Dans Captivant, le magazine de la BD sur RVE, on parle ce soir de Rome. La guerre des Gaules, qui se termine par la victoire du général romain Jules César sur le chef gaulois Vercingétorix, est incontestablement l'événement qui a le plus abondamment inspiré les auteurs de bandes dessinées. Dans Alcibiade Didasco chez les Gaulois, paru en 1999 aux éditions Athéna, Crane et Clapa racontent avec une rigueur historique teintée d'humour la révolte de Vercingétorix. Galix, imaginé par les Italiens Frescura et Beni pour le Pocket Zembla des éditions Lug en 1968, est un Gaulois qui lutte contre l'esclavage imposé par l'envahisseur romain. Dans leur longue saga Vae Victis, parue chez Soleil, Miton et Rocca imaginent le personnage d'Ambre, jeune esclave gauloise qui, lors d'une orgie à Rome, surprend les projets de César d'envahir la Gaule. Découverte, Ambre parvient par miracle à s'échapper et n'aura de cesse que de prévenir ses compatriotes. Quant aux deux plus célèbres Gaulois de l'histoire de la BD, Astérix et Alix, ils évoluent dans le contexte de l'après-guerre des Gaules. Symbole de la résistance à l'envahisseur, Astérix, le personnage de Goscinny et Uderzo, est devenu depuis sa création en 1959 dans Pilote, un modèle véritablement international, celui du petit qui n'a pas peur des grands. Si Vercingétorix ne fait qu'une brève apparition dans une aventure d'Astérix, le bouclier Arverne, il est le héros déchu de tout un album de la série Alix de Jacques Martin, le 18e tome, qui s'intitule tout simplement Vercingétorix. Nous reviendrons en fin d'émission sur la façon dont Albert Uderzo et Jacques Martin représentent la ville de Rome dans Astérix et Alix.
Brutus nous retarde! Mais nous arrivons. C'est le bout de la galerie. Cette grille donne sur le Tibre. Ouvrez la grille! L'embarcation est là. Sautez dans le fleuve. Nos hommes vous repêcheront. Vite! Sauvés! Nous sommes tous sains et saufs dans la barque.
Ne parle pas trop vite, Rufus. Ces silhouettes ne me disent rien qui vaille.
Mais ils tirent sur nous!
Ce sont nos ennemis! Je vois Marcella! Arbacès!
Vite! Protégez les rameurs avec des boucliers! Les autres, couchez-vous dans le fond de la barque! Ils ne tirent plus!
On dirait qu'ils partent! Mais oui, voyez! Ils montent à cheval!
Il faut s'éloigner, Marcella! Une troupe de cavaliers vient par ici, plus nombreux que la nôtre! Si ce sont des hommes de César, nous ne pourrons pas lutter!
Cet Alix nous échappe encore!
En moins 60, Pompée, Crassus et César imposent une alliance à trois, le Triumvirat, pour gouverner une république romaine affaiblie par les luttes intestines. La guerre civile qui éclate bientôt se conclut par la victoire de César sur Pompée à Pharsale en moins 48. Dans leur série Les Fils de la Louve, publiée dans la collection polyptique des éditions du Lombard, Passarine et Weber imaginent le voyage dans le passé du jeune Luca, étudiant en archéologie dans la Rome contemporaine. À la suite d'une nuit d'amour avec une mystérieuse inconnue, il se retrouve projeté en 44 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'année pendant laquelle, aux Ides de Mars, Jules César, devenu dictateur, est assassiné. Après cela, un second triumvirat est instauré, ce qui déclenche une nouvelle guerre civile, dont le vainqueur est Octave, neveu et fils adoptif de César. Devenu le seul maître du monde romain, il reçoit du Sénat le titre d'Auguste. C'est la fin de la République et le début de l'Empire. Dans leur série Salomé, publiée dans la collection Dédale des humanoïdes associés, Pragno et Palombo racontent comment le successeur de l'empereur Caligula, Claude, s'attaque aux sectes et autres sociétés secrètes, parmi lesquelles les adorateurs de Ranactès, divinité néfaste du sud de l'Égypte. Soupçonnant ceci d'un meurtre, le Sénat confie l'enquête à Salomé, une belle esclave égyptienne, dont les talents de devineresse seront mis à rude épreuve.
Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chip boom, do 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 do, chip boom, boom, do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do, chip, chip, boom. Do 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 do, chip, chip, boom. Do 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 do. Amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do.
Captivant, 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 captivant.
Mille milliards de mille millions de mille chevaux.
Marc Dacier.
Dieu de Rome, puissant, éternel, sous vos auspices, Rome domine le monde. Écoutez-nous, nous vous adorons.
Nous vous adorons.
Jupiter, père de tous les dieux.
Nous adorons.
Et Néron, son divin fils.
La foule s'impatiente, divinité, elle a hâte de te voir.
La foule s'impatiente. Et que fais-tu de ma patience? Un triomphe pour divertir le peuple. Qui me divertit, moi? Je suis un esclave, l'esclave de cette foule. Je ne m'appartiens pas.
Tu es le soleil dans leurs ténèbres. Est-ce que le soleil s'appartient, divinité?
Le soleil à la nuit. On me demande de briller chaque jour, à toute heure. Et pour qui? Pour le peuple. Pour cette populace infecte. Quelle chaleur aujourd'hui. La chaleur de Rome m'oppresse. J'étouffe, je meurs. Elle est trop exigeante, je vous le dis. Cette populace me met au supplice. Je la déteste presque autant que cette ville de Rome.
La superbe série Murena, éditée par Dargo, raconte la façon dont le jeune Néron s'empare du pouvoir aux dépens de Britannicus, le premier fils de l'empereur Claude, avant de faire empoisonner sa propre mère, la redoutable Agrippine. Dufault, le scénariste de Murena, fait équipe avec Delaby, dont le dessin a vraiment impressionné un maximum de monde tant il est précis, réaliste et mis en couleur avec goût. Néron a inspiré d'autres bandes dessinées. Orlan el Luchador Invencible est, vous l'aurez deviné, un héros issu de la BD espagnole. Créé par Boixcar en 1947, ce gladiateur invincible lutte pour sa survie sous le règne de Néron. Wolf the Briton, pour sa part, est issu de la BD britannique. Lui aussi est invincible, c'est en effet sous le titre de Rock l'Invincible que ses aventures ont été publiées en France. Créé en 1956 dans l'Express Weekly par Ron Hambleton, Wolf, ou Rock le Celte, est réduit en esclavage par les Romains et contraint à participer aux jeux du cirque à Rome sous les yeux d'un Néron admiratif. De 1970 à 1974, le Pocket Engarde des éditions Aventures et Voyages propose les aventures d'un légionnaire masqué nommé Sarko. Celui-ci a pris la tête des paysans espagnols qui refusent la domination exercée sur eux par le gouverneur romain Caius Justinus. Au IVe siècle, l'empereur Constantin crée une nouvelle capitale, Constantinople, désormais rivale de Rome. Dans La Dernière Prophétie, la série qu'il réalise pour les éditions Glénat à partir de 2002, Gilles Chaillet nous transporte en septembre 394, alors que l'Antiquité touche à son crépuscule. Menacé sur toutes ses frontières, le vieil empire romain semble plus absorbé par ses déchirements internes que par le péril barbare. Les chrétiens investissent Rome, annonçant la chute du paganisme et plongeant la cité dans la tourmente. En 395, l'Empire romain est partagé entre l'Empire d'Occident, capitale Rome, et l'Empire d'Orient, capitale Constantinople. Les invasions barbares du 5e siècle ravagent l'Empire d'Occident. Dans la série de Miton et Bonnet, Attila mon amour, publiée chez Glénat, nous découvrons comment les Huns, ces guerriers redoutables, centaures surgis des steppes, ont conquis un territoire plus vaste que l'Empire et menacent maintenant de marcher sur Constantinople. Parmi les cadeaux censés amadouer le roi des Huns, Attila, les Romains apportent une étrange créature, Lupa la Louve, symbole de Rome, mais les prêtres Huns voient en cet animal le présage de la mort de leur chef. Avec la chute du dernier empereur, Romulus Augustule, en 476, c'est la fin de l'Empire romain d'Occident et c'est le début du Moyen-Âge. Rome devient la capitale des États pontificaux et, dès 756, le siège de la papauté. La Rome médiévale apparaît dans l'hebdomadaire Tintin en 1979, date de la création du personnage de Vasco par Gilles Chaillet. Vasco est le neveu et l'homme de confiance d'un banquier lombard. De l'aveu même de Gilles Chaillet, il n'a été créé que pour pouvoir parler de Rome sans faire du Jacques Martin. Les tomes 18 et 19, par exemple, racontent l'histoire véridique du seigneur Cola di Rienzo. Chassé de Rome en 1447, Cola y revient en triomphateur 6 ans plus tard. Mais très vite, ses penchants pour la luxure vont prendre le pas sur ses bonnes résolutions. Ses mercenaires se livrent au pillage et bon nombre de Romains sont emprisonnés pour les motifs les plus futiles. La révolte de la ville éternelle ne tardera pas à éclater. En 1997, Desberg et Marini imaginent pour les éditions d'Argo le Scorpion, un personnage qui évolue dans la Rome du XVIIIe siècle. Le Scorpion est un spécialiste des artefacts chrétiens qu'il découvre ou confectionne afin de les revendre aux riches aristocrates. Sa vie prendra un tournant inattendu quand le diabolique cardinal Trebaldi se mettra en tête de l'éliminer, craignant que les origines de ce voleur de tombeau, qui serait le fruit d'une relation entre une sorcière et un membre influent du clergé, ne fasse échouer ses plans d'accession au trône pontifical. On le voit avec le Scorpion, Desberg et Marini s'amusent à malmener l'histoire à la manière d'un Alexandre Dumas dans le plus pur style cap et épée. Dans la réalité, les souverains pontifes ont redonné du prestige à Rome, en faisant notamment le rendez-vous des grands artistes de la Renaissance. À la fin du XVe siècle, César Borgia, duc de Valentino et Condottiere, cherche à se constituer une principauté en Italie centrale. Homme d'État habile et sans scrupules, il sera pris comme modèle par Machiavel dans son livre Le Prince et inspirera à Jodorowsky et Manara une trilogie en bande dessinée intitulée tout simplement Borgia et parue chez Albin Michel. Nous conclurons en regrettant que la Rome contemporaine soit trop peu mise en scène dans la bande dessinée. Les auteurs italiens eux-mêmes, tels Ugo Pratt ou Vittorio Giardino, semblant plus inspirés par Venise.
Au lac de Comme, l'autre mardi gras, j'allais faire un tour. J'allais faire un tour dans le petit bois. Tâter l'âme sœur qu'on devine dans la foule. Il y a foule à Rome, dans la foule romaine. Il y a foule à Rome. qui mène me reconnais-tu quand même? Alors le lion, qu'en as-tu pensé? Ah, on aurait tort de se gêner.
Ce soir dans Captivant, nous parlons de la façon dont la ville de Rome est représentée dans la bande dessinée. Et je reçois Gilles Chaillet, auteur des séries Vasco et La Dernière Prophétie, mais auteur également d'un ouvrage monumental intitulé Dans la Rome des Césars, paru aux éditions Glénat en 2004. Dans ce livre se trouve un immense poster reproduisant une vue aérienne de la Rome antique, dessinée quartier par quartier, rue par rue, bâtiment par bâtiment, fenêtre par fenêtre. À quelle échelle as-tu réalisé cette vue aérienne, Gilles ?
Alors, l'échelle est changeante vu que j'ai fait une perspective réelle. Imaginez une vue en hélicoptère au-dessus de Rome. Les bâtiments au premier plan, je dirais, sont au 15 centième. Ceux les plus au nord sont au 3500 centième. Mais lorsque vous voyez l'ensemble, vous avez l'impression que tout, en fait, est à la même échelle.
Donc, c'est un plan de Rome à quelle époque ?
Nous sommes au début du IVe siècle, juste avant que l'on commence à construire des basiliques chrétiennes à Rome. C'est sous l'empereur Constantin, le premier empereur chrétien.
C'est à peu près la même époque que La Dernière Prophétie.
C'est un petit peu avant, c'est juste avant, puisque dans La Dernière Prophétie, les chrétiens sont au pouvoir et le font savoir.
C'est un plan de Rome que tu as commencé à quelle époque ?
L'envie m'a pris, je devais avoir 9 ou 10 ans. C'était avant d'entrer en 6e. Et dès lors, j'ai commencé déjà à rassembler une documentation, entre guillemets, ce que pouvait faire un gamin à l'époque. Mais je me souviens qu'arrivé en 6e, on avait le droit au guide romain. Ça faisait partie des bouquins qu'on devait acheter quand on était latiniste. Et sur ce guide romain, il y avait des plans de la ville à différentes époques. Et ça m'avait donné l'envie vraiment de creuser plus loin. Il me reste encore quelques vestiges d'une reconstitution que j'avais fait à l'âge de 13 ans.
Et qui nous prouve que ton plan de Rome est bien l'œuvre d'une vie. Gilles, peux-tu nous présenter ton livre « Dans la Rome des Césars » qui est devenu, un peu à la surprise de ton éditeur d'ailleurs, un best-seller. Il faut dire que tes lecteurs y trouvent, pour un prix plutôt modéré, une impressionnante somme d'informations.
Oui, effectivement, puisque les gens ont droit à un bel album d'un grand format, même format que La Dernière Prophétie, La Loge Noire, 210 pages sur un très beau papier, avec des pages à rabat, et en plus de ça, inséré à l'intérieur, un poster représentant la ville entière d'un diamètre d'environ 1m40. Hein. Donc effectivement, de quoi se mettre quelque chose sous la dent. En plus du plan lui-même qui donc est débité par quartier, avec toutes ces, comment dirais-je, tous les commentaires sur chacun des monuments, des bâtiments, des statues, des fontaines que l'on peut connaître. Il y a plus de 2000 références. Il y a environ 600 documents, photos, dessins personnels, gravures anciennes qui aideront le lecteur à mieux connaître cette ville. Et puis un texte que j'ai voulu très vivant pas archéologique du tout. Il y a des gens qui l'ont déjà fait de façon extraordinaire. Mais justement, faisant passer cette passion que j'ai pour cette ville à travers un personnage de cette époque qui va dans la ville éternelle pour la première fois de sa vie. Ce qui nous permettra de partager ses émotions, ses réflexions, ses rencontres. C'est un livre aussi d'odeurs, de bruits, puisque Rome était une ville à la fois très bruyante et très odorante. Certains quartiers, comme le quartier des Tanneries, fallait quand même y vivre, quoique les gens s'habituaient finalement. Et puis aussi à travers des anecdotes, les légendes qui courent dans les quartiers. On connaît même des maisons hantées à Rome, ça existait déjà, les maisons hantées. Toutes ces petites choses qui vont donner de la ville un portrait vivant.
Gilles Chaillet, merci.
Quante scuse ho inventato io pur di fare sempre a modo mio evitare così una storia importante non volevo così ritrovarmi già grande e quanta gente ho incontrato io, quante storie, quante compagnie, ora voglio di più, una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu.
Ils sont fous ces Romains.
Marc Dacier. Les deux plus célèbres péplums de l'histoire de la bande dessinée sont incontestablement Astérix et Alix. La série de Goscinny et Uderzo et celle de Jacques Martin se déroulent toutes les deux à l'époque de Jules César. Le choix de cette époque n'a pas manqué d'entraîner chez les dessinateurs une accumulation d'anachronismes dans leur représentation de la cité éternelle. En effet, de la Rome de César, il ne subsiste que bien peu de choses, si quelques sanctuaires de la fin de la République ont survécu, très inégalement conservés, et si l'on a sauvé des vestiges du Forum de César, nous n'avons plus rien de l'aspect des rues, des maisons et des commerces. D'ailleurs, le dessinateur d'Astérix, Albert Uderzo, avoue tricher volontairement. « Ma Rome n'est pas celle de César », dit-il. La Rome de César était relativement réduite et si je la dessinais, elle paraîtrait tellement pauvre qu'on trouverait ça anormal. Je suis donc obligé d'exagérer en prenant comme modèle la Rome du IIe siècle après Jésus-Christ pour consolider la grandeur et la puissance de cette cité, de ce peuple. Ceci dit, Astérix et Obélix ne se sont rendus que très rarement dans la ville éternelle. Ils font une première fois le voyage dans l'album Astérix Gladiateur, paru en 1964. Puis, dans Les Lauriers de César, le tome 18 de la série, ils s'introduisent dans le palais de Jules César. Tel qu'Uderzo le représente, ce palais, immense et plein de marbre, de statues et de colonnes, ressemble plus au vestibule des thermes de Caracalla qu'à ce que fut véritablement la demeure privée du dictateur ou la domus publica du grand pontife. La représentation dans un autre Astérix de la luxueuse résidence secondaire de César dans les environs de Rome semble plus exacte. En effet, on sait par Suétone que les maisons de campagne de César brillaient d'un luxe effréné. Astérix se rendra à nouveau à Rome à la fin du film Les 12 travaux d'Astérix, dont l'adaptation en bande dessinée, aujourd'hui inédite, était d'ailleurs intitulée Astérix et Obélix à la conquête de Rome.
Vous êtes à Rome, devant le palais de Jules César. Jules César qui vous attend.
Vous voici donc à Rome, Gaulois.
Comme tu vois, Jules.
C'est indéniable, Gaulois, les dieux vous ont été favorables. Mais votre chance s'arrête ici, car il est impensable que vous deveniez les maîtres de Rome. Le cirque sera votre dernière épreuve. Vous y serez massacrés avec tous les habitants de votre village.
En effet, tous les Gaulois du village sont arrivés à Rome et vont rejoindre nos amis au cirque.
Le propriétaire du char stationné devant les thermes est prié de se présenter d'urgence à l'entrée du cirque.
Préparez-vous, les enfants, je crois que ça va être à nous.
Que l'on fasse entrer les Gaulois.
Lorsque Jacques Martin crée le personnage d'Alix dans le numéro 38 du journal Tintin en 1948, il a pour source de documentation un traité historique datant de 1890, une documentation obsolète qui le conduit à commettre de nombreuses erreurs dans sa représentation de Rome. Le décor urbain dans lequel évolue Alix, constitué notamment d'insulae, ou immeubles collectifs à multiples étages et structures de briques, n'apparaît guère avant la fin du règne de Néron. De même, les salles somptueuses et démesurées des riches demeures doivent beaucoup plus au cinéma américain du genre péplum ou à l'architecture des grands thermes impériaux qu'à la réalité des habitations du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et lorsque Jacques Martin nous donne une image du forum romain dans l'album Le Fils de Spartacus, il dessine la base de la colonne de Phocas, élevée en 608, la tribune des rostres inaugurée en 29 avant Jésus-Christ et les 6 colonnes de façade du temple de Vespasien et Titus. Mais tous ces anachronismes n'ont pas grande importance, Alix étant avant tout, comme Astérix d'ailleurs, une bande dessinée de divertissement et non un travail d'historien ou d'archéologue. C'est la fin de ce numéro spécial de Captivant consacré à Rome et réalisé par Christian. On se quitte avec la musique du film Gladiator. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.